Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, le club de la presse de Radio Orient, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, vice-président de l'UMP et vice-président du Sénat. Bonsoir. Pour vous interroger, Bruno Jeudy du Figaro et Henri Vernet du Parisien. Jean-Claude Gaudin, vous avez signé un bail emphytéotique avec la communauté musulmane de Marseille pour la construction d'une grande mosquée qui sera par la taille la plus importante de France. Et le 15 octobre dernier, vous étiez dans une mosquée de Marseille pour l'Aïd el-Fitr. Alors, on le sait, la ville de Marseille entretient une relation forte avec la communauté musulmane. Première question, Jean-Claude Gaudin. Qu'est-ce qui vous a décidé à doter la cité phocéenne d'une grande mosquée ? Vous étiez, je crois, assez hésitant lors de votre premier mandat.
Il y a une évolution en tout dans la vie et dans les hommes politiques aussi. À Marseille, vous avez en gros 200 000 musulmans sur une population de 820 000 habitants. Sur ces 200 000 musulmans, la moitié sont de nationalité française. Donc, construire une mosquée significative, c'est d'abord un acte de justice envers nos compatriotes musulmans, afin de leur permettre de réaliser un lieu de culte symbolique, comme toutes les grandes religions présentes à Marseille. C'est ensuite un geste de rattrapage, parce qu'en réalité, dans d'autres villes, à Lyon, à Paris, à Lille, à Montpellier, ou dans d'autres villes de France, la grande mosquée existe déjà. Et ensuite, il s'agit aussi d'une démarche de reconnaissance envers la communauté musulmane, car il faut se rappeler que leurs anciens ont contribué à la libération de Marseille, et avec leurs enfants, au développement aussi de notre ville. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui a guidé un peu cette volonté. À Marseille, il y a la cathédrale, il y a les églises, il y a la grande synagogue, il y a le temple où je me rendrai d'ailleurs, c'est le culte de la cité dimanche prochain. Toutes les religions, il y a les bouddhistes avec leur temple, toutes les religions ont un monument symbolique et significatif, plus grand que les autres. Et il n'y avait pas cette grande mosquée. Donc j'ai accepté et j'ai encouragé, d'abord ma majorité m'a suivi, ce qui n'était pas évident tout de suite, et ensuite la gauche a suivi aussi, seul un ou deux élus du MNR de M. Maigret ont cru bon de saisir le tribunal administratif. Et d'ailleurs, le tribunal administratif a annulé la première délibération parce que le bail emphytéotique était trop important, parce que nous n'avions pas mis un loyer assez fort. Alors nous venons, j'ai fait revoter le conseil municipal, et cette fois-ci avec un bail emphytéotique de 50 ans, pour 24 000 euros par an de loyer, c'était les préconisations du tribunal administratif. Voilà ce que j'ai fait.
Henri Vernet.
Est-ce qu'au-delà de Marseille, ce n'est pas aussi un message de paix ou d'apaisement à un moment où l'islam et l'immigration, qui sont souvent amalgamés, hein, sûrement parfois à tort, sont un peu, font un peu peur, quoi, sont instrumentalisés, sont un peu, il y a beaucoup d'agitation autour de ces
questions-là. Nous avons eu ça au moment des tours de New York il y a quelques années, où dès qu'il y a eu une cérémonie en l'honneur de tous ces morts à cause du terrorisme, nous avions organisé une cérémonie œcuménique dans une église au sommet de la Canebière. Et je me trouvais là, bien entendu. Et quand Béchir Dahmani, le président des musulmans du sud de la France, et j'étais dans sa mosquée, vous avez eu la gentillesse là de le rappeler, est arrivé dans l'église, je me suis levé, bien entendu, je suis allé vers lui, je l'ai embrassé, pour qu'on comprenne bien que les terroristes n'avaient rien à voir avec la communauté musulmane. Marseille, c'est un cas particulier. Vous comprenez, il y a 2600 ans d'existence. Marseille est un port où la population est arrivée strate par strate, où d'ailleurs les Marseillais n'ont pas toujours bien accueilli ce qui arrivait de l'extérieur. En 1915, après le génocide de la Turquie sur l'Arménie, le maire de l'époque, qui était pourtant un médecin, qui était pourtant, comme on disait à l'époque, un libre penseur, il était sénateur. Il interpellait le gouvernement en disant « Je ne veux pas les Arméniens à Marseille, ils apportent le typhus et le choléra, que ça !» Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons jamais donné le nom de ce maire qui restait plus longtemps que Gaston Defer, c'est-à-dire quasiment 40 ans. Nous n'avons jamais donné son nom à une place, à un lycée, à un parc, à cause de son attitude vis-à-vis des Arméniens. Puis même, si on est plus proche, et c'est encore plus grave, en 62, M. Gaston Defer fait des déclarations sur les Français d'Algérie qui étaient rapatriés, qui arrivaient chez nous, d'une brutalité excessive. Mais comme il était un fin politique, il a vite compris qu'il s'installerait là, que par conséquent il voterait, et par conséquent il a changé d'attitude.
Bruno Jeudy.
Monsieur le maire, justement, Marseille, c'est vrai, il a une tradition de bonne entente, ou en tous les cas de vivre ensemble entre les religions. C'est plutôt connu, on l'a vu d'ailleurs encore il y a deux ans à l'occasion des problèmes de banlieue en région parisienne. Marseille a plutôt été épargné. Mais en même temps, les observateurs relève qu'on voit monter quand même, un peu comme dans d'autres villes, un islam plus radical, notamment avec la présence de salafistes qui sont, dit-on, deviennent importants sur Marseille.
Je
de la même manière qu'il y a beaucoup de femmes voilées, beaucoup de femmes voilées.
Je ne les connais pas. Mais si vous voulez, j'observe, quand je me déplace en Afrique du Nord, j'observe à peu près la même chose. Et lorsque, vous savez que nous sommes jumelés avec Marrakech, où le sénateur maire Omar El Jazouli est devenu un vrai ami. Lorsque je vais même à Marrakech, un lieu touristique par excellence, etc., on voit qu'il y a une retenue plus grande aujourd'hui chez les musulmans qu'il n'existait, que cela existait auparavant. Et j'étais très content d'ailleurs de voir que le résultat des élections législatives de ces dernières semaines au Maroc ne donnait pas plus d'importance aux islamistes. Nous redoutons cette islamisation à outrance, parce qu'à mon avis, elle est contraire à notre coopération décentralisée et elle est contraire, sur le plan des pays du Maghreb, à l'essor économique du Maghreb. Bon, par contre, nous avons des liens extraordinaires et amicaux. Il y a de cela un peu plus d'un an, je me suis rendu avec 300 Marseillais, chefs d'entreprise, les hospitalos universitaires, le barreau, l'ordre des experts comptables, les cultureux. Nous sommes allés en Algérie. Comme ça n'est pas l'usage qu'un maire, fût-il parlementaire, demande à être reçu par le président de la République, que je ne l'avais pas demandé. Nous avions des rendez-vous avec le gouvernement, avec plusieurs ministres, avec nos homologues, etc. Et le président Bouteflika, sachant que j'étais là, m'a demandé d'aller le voir. Alors je m'attendais à ce qu'il me parle de la repentance, car j'avais fait un voyage avec Douste Blasi en Algérie, où Douste avait eu la gentillesse de m'inviter, et où M. Bedjaoui, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'époque, un vieux monsieur, vous savez, du FLN, monsieur très âgé déjà, mais très fort, très puissant, ne nous avait parlé que de ça. Or, le président de la République algérienne m'a parlé de plusieurs autres choses, et puis m'a dit, écoutez, Godin, voilà, nous venons de construire un hôpital neuf à Oran. Et nous ne savons pas bien le faire fonctionner. Est-ce que vous pouvez m'envoyer l'assistance publique de Marseille pour faire donner des conseils, des suggestions, etc. Bien entendu que j'ai dit oui, bien entendu qu'on l'a fait. Lorsqu'il y a eu les inondations de Bab El Oued, il y a 2 ou 3 ans de cela, ça a été une catastrophe. Il se trouve que la Société des eaux de Marseille venait de gagner un marché de l'assainissement de l'eau à Alger. Nous avons mis immédiatement tous nos ingénieurs, tous nos techniciens au service de la République d'Algérie et du président Bouteflika, et ils ont pu aider considérablement les Algériens. Ça, c'est les relations internationales. Ça s'appelle la coopération décentralisée. Internationale, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Moi, je ne me substitue pas, bien entendu, à cette diplomatie. Mais quand les hommes se connaissent, quand les hommes s'apprécient, quand il y a de bons rapports, on règle les problèmes et les communautés le savent bien. Et à Marseille, on sait très bien que Gaudin est le catholique, il peut aller dans une mosquée, il sera toujours bien reçu.
Alors justement, Jean-Claude Gaudin, nous sommes dans votre bureau du Sénat, on vous voit à côté du pape Jean-Paul II sur une photographie, vous êtes catholique, et alors vous êtes le maire qui va permettre aux musulmans d'avoir leur propre mosquée à Marseille. Ce projet, qu'est-ce que vous en dites aux élus du MNR, les élus d'extrême droite?
Ou même à quelques catholiques qui m'ont écrit, j'ai pris la précaution de leur répondre. J'ai reçu quelques dizaines de lettres de protestation, pas davantage. Rien des autorités, bien entendu, de l'Église catholique, protestante, orthodoxe ou autre, de ce côté-là, on m'a rien dit. Mieux, il y a un assentiment général. Vous savez qu'à Marseille existe une association qui s'appelle Marseille Espérance. Cette association, elle est de droit présidée par le maire. Et c'est le rassemblement de tous les dignitaires religieux qui, au moment où il va se produire des événements très graves, jadis la guerre du Golfe, les tours de New York que nous venons d'évoquer, etc., alors toutes ces communautés religieuses essaient de faire passer à la population des messages de paix, de dialogue. Alors, évidemment, à Marseille, il y a un particularisme. Bon, comme partout ailleurs, il y a cette fameuse loi de 1905. Cette fameuse loi de 1905, on dit qu'il ne faut pas y toucher, tout le monde maintenant l'approuve bien. Oui, surtout l'Église catholique. Parce que prenons Marseille, puisque vous m'interrogez sur cette ville. Nous avons 72 églises qui étaient construites avant 1905. Dans la loi de 1905, c'est la commune, comme toutes les communes en France, qui devient propriétaire de ces églises. D'autant de presbytères, bien entendu. Nous entretenons ces églises, d'autant que certaines sont des églises dont l'architecture est particulièrement intéressante. Nous y ajoutons même les orgues. Bon, ce qui veut dire que nous dépensons énormément d'argent, que l'Église catholique ne pourrait pas investir. Ce qui est injuste. Et Nicolas Sarkozy avait tenté de le dire. Devant tout ce qui s'était manifesté, il avait lancé le débat. La loi de 1905, bon, elle a établi les rapports entre l'Église et l'État, c'est-à-dire séparation. Mais en réalité, elle est injuste, cette loi. Parce que cette loi, elle nous permet de faire ce qu'on veut avec les églises catholiques qui nous appartiennent. Celles qui ont été construites d'églises après 1905 relèvent de l'autorité de l'Église, du lieu, des évêques. Et pas de la mairie. Mais nous, 72, c'est pas mal. Bon, or, nous pouvons faire des travaux dans les églises catholiques, jamais dans une synagogue, jamais dans un temple protestant, jamais dans le temple du bouddhiste, jamais dans les autres lieux de culte. Là, on n'a pas le droit. On ne peut pas le faire. Donc un jour, il faudra peut-être bien qu'on regarde cela. Alors qu'est-ce qui effraie les élus locaux? C'est de dire, mais alors c'est nous qui ferons la dépense. Voilà, et Nicolas Sarkozy avait eu le courage de lancer un peu ce débat, mais tout le monde a dit, y compris l'Église, grande bénéficiaire de la loi de 1905 aujourd'hui, non, nous ne voulons pas toucher à la loi de 1905.
Vous pensez, monsieur le sénateur, là, pour le coup, qu'il faudrait rouvrir ce débat?
Non, je ne pense pas qu'il faille rouvrir ce débat, mais il n'est pas inutile que des voix souligne le fait que il y a c'est un peu disproportionné. Alors vous allez me dire aussi, et c'est la réponse de l'Église catholique, peut-être je la formule mal, en tout cas je ne suis pas qualifié pour parler en son nom, mais la loi de 1905 avait été précédée d'autres lois, la loi sur la confiscation des biens d'église et la loi sur la disparition des congrégations. Donc l'Église catholique emploie cet argument en disant « oui, c'est vous aujourd'hui qui financez, mais en réalité vous nous l'aviez pris ». Donc, je ne sais pas s'il faut ouvrir ce débat. Je dis simplement que ça m'a encouragé à faire la mosquée en disant « c'est pas juste que les chrétiens, eux, aient toute possibilité que les autres pas ». Et donc, ça m'a encouragé à aller dans ce sens-là sur la construction de cette mosquée. Ceci dit, il y a 62 aussi lieux de culte pour les musulmans à Marseille. Il y a des mosquées qui sont significatives et très bien, et il y a aussi des endroits où c'est au pied d'immeubles, à côté peut-être même des locaux à poubelles, qu'on a installé des lieux de prière. Alors, de temps en temps, c'est choquant. Et d'ailleurs, les télévisions viennent de temps en temps filmer ça. Et là aussi, c'est injuste. Parce que pour mettre des lieux de culte dans les offices HLM, il a fallu que nous fassions de sacrées pressions sur ceux qui administrent ces HLM pour leur dire, voilà, au rez-de-chaussée, vous allez prendre 3 appartements, on va, de ces 3 appartements, faire qu'une grande salle de prière. C'est nous qui l'avons fait. Il y a eu 10 ans, quelquefois, en arrière. Et on était assez gonflés pour faire ça. Alors, qu'on reconnaisse au moins ce que nous avons fait pour les musulmans. Bien sûr que c'était au rez-de-chaussée, bien sûr que c'était à côté des locaux, des poubelles ou de l'entretien, mais nous l'avons fait quand même.
Jean-Claude Gaudin, est-ce que vous pouvez nous parler de l'architecture de cette future grande mosquée? Est-ce qu'on peut imaginer que cette mosquée devienne l'un des symboles de la ville, comme peut l'être aujourd'hui Notre-Dame de la Garde, qui est l'emblème de Marseille?
Est-ce qu'il y aura le muezzin, le chant du muezzin, le matin?
Mais alors, attendez. Il y a d'abord eu, dans le centre de la ville, il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée rue Malaval, dans le 2e arrondissement de Marseille. Et c'est une mosquée de 600 places. Je l'ai inaugurée. Et elle a une architecture spécifiquement religieuse. Alors, dans la grande mosquée, la ville de Marseille offre un très grand bâtiment. Ce bâtiment, dont la toiture a été refaite il y a à peine 10 ans, est en excellent état. C'est un architecte issu de l'immigration qui s'appelle Khelif, Monsieur Khelif. Moi, je connais bien cet architecte, parce que quand j'étais président de la région, nous l'avions choisi pour construire plusieurs lycées de la région. Et il a toujours fait des bâtiments architecturaux superbes, on ne peut pas dire monuments pour un lycée. Nous lui avons confié le soin de faire le décor sur ce bâtiment. Alors bien sûr qu'il y aura un minaret, mais il y aura un minaret, mais peut-être pas le muezzin à toutes les heures du jour, surtout très matinal. Malgré tout, nous sommes en Provence. Il faut que, à la fois, nos amis musulmans respectent un peu l'architecture de chez nous, tout en ayant leur édifice de culte significatif. Le muezzin à 4 heures du matin, j'imagine que ça ne se fera pas. Voilà, quant à me dire Notre-Dame de la Garde, cher ami, faites attention, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, Monsieur Le Pen envoyait une carte postale pour Noël. La carte postale, c'est que à la place de Notre-Dame de la Garde, il avait mis la mosquée, puis il manquait rien, hein, avec le croissant dessus. Bon, en disant voilà ce que fera Gaudin. Alors Gaudin, c'est pas ça qui l'impressionne. Mais bien entendu que je ne vais pas non plus changer Notre-Dame de la Garde, j'y suis trop attaché.
Jean-Claude Gaudin, au mois de mars auront lieu les élections municipales. Sur le plan national, vous êtes le président de la Commission nationale d'investiture de l'UMP. Je voudrais d'abord qu'on parle des municipales à Marseille. Vous avez pour adjointe Myriam Salaheddine. Est-ce que vous allez à nouveau vous entourer de personnalités représentatives de la diversité? Est-ce que vous allez aussi donner un coup de pouce à de nouveaux talents, comme l'a fait Nicolas Sarkozy avec Rachida Dati et Ramayad?
Écoutez, Nicolas Sarkozy, l'autre jour, est dans un grand quotidien du soir, comme vous dites, et mercredi dernier, devant l'ensemble des dirigeants de l'UMP, a eu des propos très aimables à mon égard en disant « Gaudin, il est très classique à Paris, mais il est très moderne à Marseille ». C'est un très bon compliment. Parce que j'ai ouvert mes listes il y a déjà plusieurs années. Et vous venez de parler de Myriam Salaheddine, qui est adjointe au maire, qui est la benjamine du conseil municipal. Il y a aussi Mourad Kaloul, qui est le président des pêcheurs de toute la Méditerranée. Bon, il y a d'autres amis issus de l'immigration ou qui sont venus de la société civile avec moi et auxquels je n'ai jamais demandé de prendre une carte de parti politique. Donc, l'ouverture, si vous voulez, d'abord aux gens issus de l'immigration, ensuite à des hommes ou des femmes responsables qui ne faisaient pas de politique. Bien sûr que je les ai associés au conseil municipal. Et je souhaite continuer à faire cela. D'autant plus que c'est encouragé aujourd'hui par le président de la République lui-même. Alors, je n'avais pas, par exemple, pris des gens issus du Parti socialiste directement sur ma liste au conseil municipal. Mais deux personnalités marseillaises qui avaient eu toujours ce positionnement à gauche, je les ai sollicités.
Vous voulez parler de M. San Marco ?
Non, je veux parler d'abord de M. Loïc Fauchon, qui est le président de la Société des eaux de Marseille, qui est le président du Conseil mondial de l'eau, dont le siège est à Marseille, et qui était maire socialiste de Tresse, une ville de 15 000 habitants des Bouches-du-Rhône. Je veux encore parler de Michel Kester, qui nous a fait le remarquable bâtiment des docks, qui nous a réhabilité les docks de Napoléon III, qui avait été le directeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lorsque Michel Pezet en était le président. Ces hommes-là, dès que j'ai été élu maire, ça fait 12 ans déjà, je les ai appelés avec moi. Bien entendu que j'ai eu quelques remarques de mes amis élus de droite en me disant « Eh bien, tu n'as pensé qu'à eux, il n'y en avait pas d'autres ». Et je leur ai dit « Je prends ces hommes-là parce que je pense que ces hommes-là sont intègres, honnêtes et sincères ».
Mais est-ce que vous allez élargir cette ouverture à d'autres socialistes ? On a parlé à Marseille de M. San Marco, voire de M. Pezet, qui était votre adversaire.
Pour l'instant, ces choses-là se regardent, on imagine un certain nombre de choses. Pour M. San Marco, les socialistes l'ont évacué. Il y a déjà pas mal d'années. Et M. San Marco siège au conseil municipal dans un groupe qui s'appelle la Convention citoyenne. M. San Marco a toujours eu un positionnement à gauche, mais il est intègre, il est honnête, et il n'est pas caricatural de l'opposition. J'ai à Marseille, hélas, au conseil municipal, puisque le président Guérini, qui est mon challenger, n'a jamais mis les pieds au conseil municipal. Il en fait pourtant partie, mais il ne vient pas. Et c'est un des proches de Mme Ségolène Royal qui est le chef de l'opposition. Une opposition toujours brutale, vulgaire, caricaturale, qui, ne, me semble-t-il, ne sert pas les intérêts de Marseille. Or, dans une élection municipale, vous savez, moi j'ai été habitué à ça parce que Gaston Defferre a gouverné la ville de Marseille pendant 24 ans avec la droite. Et quand j'étais tout jeune, j'ai participé pendant 12 ans à cette coalition entre les socialistes, le mouvement républicain populaire et les indépendants. À Marseille, c'est quelque chose qui est très bien accepté. Des hommes, des femmes qui ont réussi professionnellement, qui font autorité dans leur métier, qui aiment leur ville, si ces gens-là veulent se présenter ensemble et acceptent de laisser la politique au vestiaire, mais c'est merveilleux.
Donc vous n'excluez pas que M. San Marco vous rejoigne. Et quant à M. Pezet, on avait entendu également ça sur...
Oui, on en parle, mais M. Pezet, il est candidat à Aix. Et pour l'instant, je n'ai pas le sentiment qu'il veuille venir à Marseille. Mais pour M. San Marco, si M. San Marco acceptait de participer à la liste de large union que j'ai l'intention de conduire, ça me ferait plutôt plaisir.
Et le MoDem ?
Alors le MoDem...
Il peut vous embêter. On a entendu qu'il pouvait faire 10%
oui,
sur
10%, alors ça, vraiment, je ne crois pas. Ils n'ont jamais fait, même avec M. Bayrou. Alors, le MoDem, c'est l'UDF. J'allais dire, et vous le savez parfaitement, l'UDF, quand même, Je suis un des fondateurs de l'UDF. J'ai présidé pendant 9 ans, personne n'a battu mon record, le groupe UDF de l'Assemblée nationale. Je m'inspire du catholicisme social, du sillon de Marc Sangnier. À Marseille, il y a des hommes comme Paul Mélisan, qui avait créé une institution et qui a été l'éditorialiste quand on a fondé le journal Le Méridional à la Libération. Je m'inspire de cette tradition, de Madame Germaine Poinçon-Chapuis, la première femme qui a été ministre après avoir été élue députée à la Libération. Je suis de cette famille-là. Et tout le monde le sait à Marseille. Je ne suis pas un ultra-libéral. Je suis plutôt considéré comme un démocrate chrétien. Or, les gens de l'UDF font partie aujourd'hui de ma municipalité. Ils sont adjoints au maire avec moi. Et ils se sont toujours très bien comportés. Et moi, je leur ai laissé toute liberté. Aux élections législatives, les adjoints au maire UDF de Marseille, ils ont voté. D'abord, au présidentiel, ils ont voté pour M. Bayrou. Et ils ont soutenu M. Bayrou. Et aux élections législatives, ils se sont présentés contre les candidats de l'UMP. Et ils ont soutenu les candidats du MoDem, de l'UDF du moment. Bon, donc moi je leur ai laissé totalement toute liberté. Je souhaiterais qu'ils restent avec moi s'ils le veulent. Alors si évidemment M. Bayrou veut m'imposer M. Benamias, écoutez, il fera ce qu'il voudra. M. Benamias, pour moi, c'est pas une crainte.
L'invité de Pluriel est Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, vice-président de l'UMP et vice-président du Sénat. Pour vous interroger, Bruno Jeudy du Figaro et Henri Vernet du Parisien. Une question d'Henri Vernet.
Et pour Paris, alors comment voyez-vous les choses? Vous êtes moins directement concerné, mais est-ce que Mme Françoise de Panafieux a des chances grandes, réelles, face à Delanoë? On dit, il se murmure notamment qu'elle aurait du mal à tirer des têtes d'affiche du gouvernement ou de l'UMP pour les mairies d'arrondissement.
Madame, la dernière fois, qu'est-ce qui nous a fait perdre Paris? Ce sont nos divisions. Ce sont les divisions de la droite et du centre qui ont permis à M. Delanoë de s'installer à la mairie de Paris. Comme tous les maires, M. Delanoë, il s'est appliqué, je crois qu'il travaillait beaucoup. En tout cas, moi, les rapports que j'ai eus avec lui de maire à maire ont toujours été empreints d'une grande courtoisie et d'une grande loyauté. Bon. Pour autant, M. Delanoë est d'un camp, et moi je suis de l'autre. Donc moi je soutiens mes amis. Mes amis, afin d'éviter que nous n'arrivions jamais à choisir quel serait le bon candidat, nous avons mis une procédure en place à l'intérieur de l'UMP. L'avons-nous fait trop tôt? Certains diront que oui. En tout cas, ça a le mérite d'avoir été fait. Et de ne pas nous obliger à le faire maintenant en toute précipitation dans cet automne 2007. Donc, il y a eu un débat clair, démocratique. J'aimerais bien qu'il existe au MoDem. Tiens, par exemple, ce même débat. Parce que quand j'entends le président du MoDem tant critiquer le pouvoir absolu du président de la République, je me demande lui, dans son parti, ce qu'il fait. Bon, si ce n'est pas la même chose. Bon, en tout cas la même critique qu'il porte sur le président de la République. Bon, nous avons mis en place ce dispositif qui aboutit à la désignation de Madame de Panafieux. Mais évidemment, à Paris, il y a 20 mairies d'arrondissement. Bon, d'ailleurs au passage, je vous rappelle, car on a...
La loi PLM,
c'était pas ça. Un jour, nous apprenons... à l'époque de M. Mitterrand et de M. Mauroy, Premier ministre, au sortir du Conseil des ministres, que le Conseil des ministres a décidé de faire à Paris 20 mairies de plein exercice. Et devant le tollé que cela a provoqué, immédiatement, bien entendu, le gouvernement a reculé et a fait 20 mairies qui ne sont pas de plein exercice. Et pour faire bonne dose, il a ajouté Lyon, il a ajouté Marseille. Et Marseille, en plus, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gaston Defferre, assez rusé, avait même joint à la loi le découpage spécifique de Marseille, qui était particulièrement scandaleux, puisque je vous rappelle que j'ai fait 2500 voix de plus en 83 que Gaston Defferre, mais que je n'ai pas pu être maire. Mais ça aussi, dans l'histoire, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça soit comme ça à Paris en 2007?
C'est possible qu'il y ait... ça peut, par rapport...
Mais c'était le cas pour Séguin, d'ailleurs, voilà, il était majoritaire en voix.
C'était... Par rapport au nombre de sièges et par rapport à cette loi, quelque chose qui est possible, comme quoi toutes les lois sont imparfaites, mais celle-là maintenant de loi municipale apparaît à une grande majorité des gens de droite ou de gauche comme aujourd'hui acceptable. Paris, Lyon, Marseille, il y a toujours bien évidemment ce particularisme qui a été établi. Donc Madame de Panafieux, j'en termine. Madame de Panafieux a été désignée, bien entendu que ça n'est pas facile pour elle, avec des députés, avec des personnalités, avec l'idée d'ouverture du président de la République, d'arriver à constituer 20 listes sur l'ensemble de la commune. Mais il n'y a pas 20 élections, il n'y a qu'une élection. C'est Madame de Panafieux face à Monsieur Delannoy. Voilà, c'est à Lyon, M. Collomb face à M. Perben, c'est à Marseille, M. Guérini face à M. Godin. On ne vote pas pour le maire de secteur, même si le maire de secteur apporte un plus. On vote pour le maire qui sera le maire de la ville.
Donc il ne faut pas encourager des têtes d'affiche à la rejoindre.
Alors,
on parle de Rachida Dati.
Oui, bien entendu, chacun souhaite avoir le maximum de voix dans son secteur, etc. Des personnalités vont figurer sans doute sur la liste.
Vous confirmez le nom de Rachida Dati à Paris?
Oui, je pense que oui.
Dans quel arrondissement?
Je pense qu'il s'agit du 7e arrondissement.
Autre question, lors des dernières législatives, il y a eu une forte déception sur la question de la diversité, que ce soit à droite avec Salem Cassette ou à gauche avec Fawzi Lamdaoui, par exemple. Tous les candidats issus de l'immigration ont été battus. Mmh. Alors, on a parlé de Marseille et de votre adjointe Myriam Salah Eddine.
En mars 2008, Rem Damnia qui n'a pas pu battre Madame Andrieux.
En mars 2008, il y aura des maires UMP issus de l'immigration.
Alors, il y aura en tout cas des gens qui vont conduire la liste et qui seront issus de l'immigration. On parlait de ce... Il y a un grand chirurgien qui est à Rennes et que nous allons choisir pour diriger notre liste dans la ville de Rennes. Il est clair que... c'est courageux, parce que vous venez de le dire vous-même. Les socialistes ont présenté des gens issus, des personnalités issues de l'immigration. Nous l'avons fait aussi. Aucune de ces personnalités n'a pu entrer à l'Assemblée nationale. C'est plus facile de rentrer dans un conseil municipal ou au Parlement européen.
Ou au Sénat.
Le Sénat, la moitié des électeurs sont élus à la proportionnelle. La moitié des sénateurs sont élus à la proportionnelle. Mais c'est encore un scrutin un peu particulier. Mais si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Sur le résultat des législatives, les personnalités issues de l'immigration, à droite comme à gauche, n'ont pas réussi. Pour autant, nous les voulons dans les conseils municipaux. Voilà.
Bruno Jeudy.
Monsieur Godin, on a compris que ce serait plus difficile pour Madame de Panafieux en mars 2008 que pour vous-même à Marseille. Pour ce qui est des autres villes, on dit que le cru 2007 sera plus difficile que le cru 2001 pour l'UMP, mécaniquement, puisqu'en 2001, la droite avait gagné une trentaine de villes de plus de 30 000 habitants, donc ça va être beaucoup plus difficile. Quel est aujourd'hui votre pronostic, vos meilleurs espoirs?
Bon, d'abord, espoir pour mon camp, bien entendu. Pour Madame de Panafieux, bien entendu que ça n'est pas facile, mais une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et nous hésitions ou si nous nous interrogions sur cet aspect des choses, regardez les législatives. Hein, nous avons été sans doute très imprudents dans nos déclarations les uns et les autres du dimanche soir. Imprudents par certains qui disaient que nous allions avoir beaucoup de sièges et le ressac entre les deux tours a été très fort, puisque une quarantaine des nôtres ont été battus de justesse, mais ont été battus à l'Assemblée nationale. Par conséquent, c'est difficile, mais aucun combat n'est perdu d'avance. Ce sont les combats qu'on ne livre pas qui sont perdus d'avance. Et puis, je souhaite à Madame de Panafieux, bien entendu, de remporter le succès. Et moi aussi, vous savez, les gens qui ne doutent pas en politique, à mon sens, ça n'existe pas. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Mais il est clair que les maires en place sont mieux positionnés dans une affaire qui ne relève pas tout à fait de la politique, même si dans...
Même à Nice, par exemple, à Nice, il y a la dispute prévisible entre Perra, maire sortant, et le ministre Estrosi, qui a envie de...
Oui, ben nous avons surtout vu un sondage qui a été publié, donc je peux en parler. Ce sondage, effectivement, donne une très forte avance à M. Estrosi par rapport au maire sortant. C'est un peu un cas un peu particulier. Peut-être y a-t-il moyen de s'entendre avec le maire sortant et M. Estrosi. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais, qu'il y ait une possibilité d'entente pour que nous n'allions pas à deux listes opposées. Ça, c'est quelque chose qui, évidemment, ne nous plairait pas à l'UMP.
Jean-Claude Gaudin, est-ce qu'il y a un risque pour l'UMP de voir Bordeaux et Toulouse basculer à gauche en mars 2008 ?
Les éléments que nous avons, les renseignements que nous avons, les sondages que nous avons, indiquent au contraire que M. Moudenc se porte beaucoup mieux. Et je pense qu'avec l'appui de Dominique Baudis et aussi de Douce de Blasi, il arrivera à être réélu. Quant à Bordeaux, là aussi nous avons des sondages, mais n'avons pas cru devoir les communiquer, qui indiquent que M. Juppé est en très bonne position.
Bruno Jeudy.
Dans la région PACA, il y a un des grands espoirs, un des rares espoirs de gain de ville de plus de 100 000 habitants pour la droite, c'est Montpellier. Est-ce que vous pensez réellement que c'est une ville qui est gérée par le Parti Socialiste depuis de nombreuses années ? Est-ce que c'est réellement une ville gagnable pour...
Alors, effectivement, dans la région Languedoc-Roussillon, il y a Montpellier qui souffre à l'heure actuelle de l'hégémonie politique brutale, caricaturale, intransigeante, pourtant d'un homme intellectuellement très fort qui est M. Fraîche. Et nous venons d'avoir un succès totalement inattendu. Nous venons, dans le département de l'Hérault, de gagner un siège au Sénat. Pourquoi ? Nous avons gagné ce siège parce que la gauche était fortement divisée. Et par les vases communicants, nous en avons profité avec un homme d'ailleurs de talent, avec un homme qui a des racines politiques, qui est un de mes amis, qui est Raymond Coudert, le sénateur-maire aujourd'hui de Béziers. Mais nous avons surtout gagné parce que la gauche était divisée, parce que la gauche ne supporte plus l'hégémonie de cette personnalité que je vous ai citée.
Alors, Jean-Claude Gaudin, parlons aussi de Mulhouse, où devrait se présenter Jean-Marie Bockel, socialiste, exclu de son parti suite à son entrée au gouvernement. Comment allez-vous expliquer au cadre de l'UMP à Mulhouse qu'il faut voter pour quelqu'un qui les a combattus pendant des années ?
Vu de l'extérieur, c'est pourtant l'endroit le plus facile. Parce que Jean-Marie Bockel a toujours été, certes il était socialiste, mais a toujours été une personnalité de dialogue, d'ouverture, de consensus, un homme intelligent, un homme attentif. Bon, alors évidemment, nos amis là-bas, dans ce département du Haut-Rhin, qui ont l'habitude d'avoir aussi des succès et des positions politiques très fortes en Alsace, à commencer par la région, puisque c'est la seule région avec la Corse que nous avions, et c'est un peu différent, la Corse que nous avions pu conserver dans le raz-de-marée socialiste pour les régionales. Il est clair que, vu de l'extérieur, Bockel est la personnalité avec laquelle on peut se mettre le plus facilement d'accord. Pour nos amis sur place, il est bien évident qu'ils avaient prévu de s'attaquer à Bockel, de s'opposer à lui, même s'ils ne pensaient pas que peut-être il gagnerait, encore que Mulhouse a été une ville dirigée par la droite pendant de très nombreuses années avant qu'arrive Jean-Marie Bockel. Bon, aujourd'hui, c'est l'ouverture. L'ouverture, elle ne peut pas se faire que dans un sens. C'est-à-dire la droite, essayant d'avoir des personnalités plutôt de la mouvance gauche sur ses listes. Et il y a aussi des hommes de gauche qui ont accepté les idées du président de la République et souhaitent participer justement à cette politique nationale qui est menée à l'invitation, à l'instigation du président de la République, à ce moment-là, il faut que ce soit les nôtres qui acceptent d'aller aussi avec eux. Alors, le mouvement n'est pas facile, mais le mouvement, il ne peut pas se faire que dans un sens. C'est-à-dire la droite qui fait appel à la gauche. Il y a aussi la gauche qui peut faire appel à la droite, et ça peut se produire dans plusieurs villes. Ça peut se produire à Gap, dans les Hautes-Alpes. Ça peut se produire à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et ça se produira sûrement à Mulhouse.
Il a créé un parti en vue des municipales gauche moderne qui rassemble les sarkozystes de gauche. Ça peut aller au-delà de Mulhouse, ça
Savez, tout le monde a essayé de tenter cela. Rappelez-vous, M. Giscard d'Estaing disait qu'il voulait unir 2 Français sur 3. C'est plutôt Sarko qui arrive à le faire maintenant. Et d'ailleurs, je crois que ça fait plaisir à Giscard d'Estaing. M. Mitterrand, il a tenté une ouverture. Quand il avait fait appel à M. Soissons, à M. Roche, à M. Stoléru, d'autres encore dont le nom m'échappe, il est clair que M. Mitterrand lui-même avait tenté aussi cela. C'est le rôle de chaque président de la République. La différence entre les présidents de la République précédents et Nicolas Sarkozy, c'est que le rythme est différent, c'est que l'allure est différente. C'est que l'homme actuel qui est à l'Élysée n'est pas spécialement sensible aux dorures, aux protocoles, aux géniflexions, etc. Je ne voudrais pas pour les autres présidents, parce que ce ne serait pas convenable, mais vous relirez un livre de Montgrédien sous Louis XIV. Et on disait, à la fin de sa vie, Louis XIV était devenu une divinité sclérosée à laquelle on venait avec ennui apporter l'encens quotidien. Bon, nos présidents de la République avaient un peu l'habitude de recevoir l'encens, sans être des personnalités tant décriées.
Vous pensez que la politique française va radicalement changer maintenant que Nicolas Sarkozy est président de la République ?
Personnellement, je le souhaite. Par ailleurs, il y a de nombreux obstacles. Cependant, nul ne peut nier qui donne une allure nouvelle, différente. Par exemple, quand il vient à Marseille, président de la République, je ne m'interroge pas pour savoir où on va déjeuner. Il ne veut pas. Il mange des yaourts dans l'avion. Bon, il ne veut pas déjeuner. Bon, ce n'était pas la tradition avec M. Chirac. Quand M. Chirac me rend des visites, nous allions manger la bouillabaisse. Avec Nicolas. Ça me manque. C'est pas que ça me manque, je m'adapte. Bon, néanmoins, le président de la République vient, néanmoins, je le rencontre, néanmoins, on va en voiture ensemble, etc. Il est dans son rôle, mais en même temps, c'est pas la peine de prévoir un déjeuner, il veut pas. Voilà, il va plus vite, il trouve que c'est du temps perdu, lui.
Après les municipales et les cantonales, il y aura les sénatoriales, qui seront suivies de l'élection du président. Alors, nous sommes ici au Sénat, dans votre bureau, on sait que c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que vous avez avancé dans votre réflexion sur candidature ou non à la présidence du Sénat ?
À partir du moment où on est sénateur, à partir du moment où on exerce un peu quelques responsabilités au Sénat, voilà bientôt 9 ans que je suis vice-président du Sénat et actuellement élu par mes pairs le premier vice-président du Sénat. Il est clair que la présidence du Sénat est quelque chose dont on peut rêver et dont beaucoup de sénateurs rêvent. Mais pour l'instant, ma préoccupation est Marseille. Et d'abord, je souhaite être réélu à Marseille parce que j'ai toujours considéré que Marseille, quand je suis arrivé à la mairie, avait 20 ans de retard. Aujourd'hui, Marseille est à l'heure. Mais je voudrais donner à Marseille un avenir. Et je voudrais donner à Marseille 20 ans d'avance. Et d'ailleurs, la première préoccupation, c'est pour moi Marseille. Ce qui fait que dans l'année qui vient, d'autres qui pensent à la présidence du Sénat vont avoir un peu l'avantage sur moi, c'est qu'ils peuvent consacrer, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mandats locaux, ils peuvent consacrer plus de temps à rechercher les suffrages au Sénat, tandis que moi, d'abord, il y a Marseille, et Marseille est si j'existe politiquement, c'est à cause de Marseille. Donc Marseille d'abord.
Mais vous ne l'excluez pas ?
si je suis réélu à Marseille, je pourrais, me semble-t-il, entrer dans la catégorie des hommes politiques qui auront suffisamment d'ancienneté, d'expérience et de combat politique à leur actif, qui pourrait me permettre d'être sur la ligne de ceux qui sont postulants.
Henri Vernet.
Mais au Sénat, justement, alors, c'est un peu iconoclaste de poser la question en ces lieux, puisque nous sommes en effet dans votre bureau, mais est-ce que son avenir doit ressembler à son passé, certes illustre, en d'autres termes, est-ce que le temps d'une réforme du Sénat, d'un rôle différent à envisager pour cette Assemblée, n'est pas venu? Est-ce qu'il ne faut pas y réfléchir et en discuter?
Alors, effectivement, le Sénat s'est déjà transformé beaucoup. Nous avons considéré à une époque, alors que personne ne nous demandait rien, que 9 ans au Sénat, c'était trop long, et nous avons ramené le mandat du Sénat de 9 ans à 6 ans. Bon, et cela va prendre effet. La moitié, aujourd'hui, des sénateurs sont élus à la proportionnelle. Par conséquent, ce qui est important, c'est le principe du bicamérisme. Et le bicamérisme montre son utilité. Regardez, même en prenant l'actualité de ces jours-ci,
sur l'ADN,
M. Mariani qui dépose un amendement sur l'ADN, cet amendement pose problème, interrogation, ça n'était pas prévu. Bon, le gouvernement veut le prendre à son compte, sans doute pour faire plaisir à M. Mariani. Et puis finalement, heureusement qu'il y a la Haute Assemblée pour corriger un peu le tir de cet amendement un peu imprévu. Et donc, la commission des lois du Sénat va travailler fort et va trouver un certain nombre va formuler un certain nombre de propositions qui, à l'instant même, sont d'ailleurs discutées par la commission mixte paritaire et ont toutes les chances d'être retenues pour que ce texte puisse enfin être adopté. Voilà le rôle du Sénat. Le Sénat, dans le bicamérisme, est un élément d'expérience, de sagesse. Il arrive souvent que des ministres viennent en nous disant tel ou tel amendement a été voté ou tel texte a été voté à l'Assemblée nationale, est-ce que le Sénat ne peut pas un peu le corriger, l'atténuer, l'orienter différemment? Et c'est ce que nous faisons.
Alors, pour revenir sur le Sénat, il y a une question que vous avez évoquée là un petit peu, c'est la question du mode d'élection des sénateurs. On a parlé de la proportionnelle éventuellement à l'Assemblée, mais on a parlé aussi d'une extension de l'élection à la proportionnelle des sénateurs. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet qui apparemment tient un peu à cœur de Nicolas Sarkozy?
Oui, mais d'abord, je pense que ce qui intéressait, c'était surtout l'Assemblée nationale. Avant même le Sénat, ce qui pose problème dans une élection, avec le scrutin à l'Assemblée nationale, uninominal à deux tours majoritaire. Bon, c'est que un certain nombre de candidats qui font des voix dans le pays n'arrivent pas à avoir de parlementaires à l'Assemblée nationale. Et quand on s'est interrogé pour savoir s'il fallait instiller, c'était l'expression, une dose de proportionnelle, on n'a pas parlé du Sénat, on a parlé d'abord de l'Assemblée nationale.
Le président, pendant la campagne, en a parlé.
Oui,
C'était pour un peu cacher le fait que c'était pour l'Assemblée.
Il en a parlé aussi parce que dans la tradition de la Ve République, les gaullistes, qui sont encore très puissants, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ne sont pas favorables au scrutin à la proportionnelle. Ils sont favorables au scrutin majoritaire, c'est dans la tradition des gaullistes. Cependant, on constate que des gens qui font des voix dans le pays n'arrivent pas à être représentés. Donc, il est probable que la commission Balladur peut faire des propositions. Attention, les lois électorales n'ont jamais été inscrites dans la Constitution. Et d'ailleurs, bien nous en a pris, parce que lorsque les socialistes nous mettent la proportionnelle, Bruno, en 86, vous vous rappelez, nous gagnions UDF et Rassemblement pour la République, la majorité absolue contre toute attente à l'Assemblée nationale, et nous avons 5 sièges d'avance. Le soir, on gagne le dimanche. Le mardi soir, les chefs de la droite et du centre nous sommes conviés à nous retrouver vers 20h dans le bureau de Jacques Chirac à l'hôtel de ville de Paris. Je m'y rends. Et là, nous attendons que Chirac revienne de l'Élysée. Et quand Chirac revient de l'Élysée, nous lui demandons, c'est Édouard Balladur qui lui dit, écoutez, Jacques, racontez-nous mot à mot votre conversation avec Mitterrand, c'est très important pour l'avenir. Et Chirac dit, mais bien sûr, alors il m'a reçu, puis il a commencé à dire, Mitterrand, ah ben écoutez, nous avons cherché cet après-midi M. Giscard d'Estaing et M. Chaban-Delmas, mais nous ne les avons pas trouvés. Alors, puisque je lis ici ou là dans la presse que la droite serait d'accord pour que vous soyez Premier ministre, je vais vous nommer Premier ministre, mais à 2 conditions. Nous avons gagné les élections le dimanche au soir, et le mardi, on nous pose déjà des conditions. Alors vous allez me dire, ça c'est dans le cadre de la cohabitation. Mmh. Oui, mais la cohabitation, par un accident de la vie, elle peut arriver à tout moment, dans nos institutions. Bon, si on avait, voyez-vous, si on avait mis, par exemple, les lois électorales dans la Constitution, et il est probable alors que, par exemple, pour Paris, Lyon, Marseille, nous n'aurions plus jamais pu changer le découpage, ce que j'ai obtenu quand même en 87, de revenir à un découpage normal et équilibré. Donc, j'aurais jamais pu le faire.
Vous, ça ne vous choque pas d'instituer de la proportionnelle pour le mode d'élection des députés ?
Pour le mode d'élection des députés, si la dose de proportionnelle est limitée à 20 sièges, à 25 sièges, je pense que dans la modernité, nous devrions l'accepter. Voilà. Alors, on me dit que la commission Balladur pourrait proposer, je n'en sais rien, mais on dit cela, que les partis politiques qui auraient fait plus de 5% des voix sur l'ensemble du pays et qui n'auraient eu aucun siège au scrutin d'arrondissement, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, pourraient participer à la distribution de ces 25 sièges. Cependant, si M. Hollande et M. Bayrou veulent nous faire chanter en prévision des 3/5 du Congrès indispensables pour voter toute réforme constitutionnelle, en nous mettant une dose beaucoup plus importante, en disant par exemple 10%. 10%, c'est 57 sièges. C'est pas possible. Parce que, comme on avait gagné en 86 que de 5 sièges, il n'y a plus de majorité. S'il n'y a plus de majorité, nous revenons au système de la 4e République, c'est abominable. Par conséquent, oui, à une dose de proportionnelle, mais limitée. Voilà.
Henri Vernet.
Alors, parmi les autres réformes qui sont envisagées ou dont on parle éventuellement, il y aurait la suppression du référendum automatique pour toute nouvelle adhésion à l'Union européenne, dispositif instauré par Chirac qui visait essentiellement la Turquie. Est-ce que vous seriez pour ou contre cette suppression ? C'est-à-dire qu'en gros, pourrait adhérer à un pays sans que le peuple français se prononce.
Honnêtement, je crains que si cette disposition, qu'on ne puisse plus faire adhérer à l'Union européenne un pays sans le référendum, sans l'approbation du peuple français, je crains que plus aucun pays ne puisse venir. Bon, par contre, pour ce qui est de la Turquie, que moi, dès que j'étais jeune député, j'avais 38 ans, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai toujours posé des questions sur le génocide arménien, que j'ai pu enfin faire voter un jour ici, la reconnaissance du génocide des Arméniens par la Turquie, ici à la Haute Assemblée, croyez-moi, ça n'avait pas été une petite affaire. Moi, je suis totalement hostile à l'entrée de la Turquie dans l'Union économique européenne, dans l'Europe. Parce que ce n'est pas dans l'Europe. Moi, j'ai été professeur d'histoire et de géographie pendant 15 ans. J'ai toujours expliqué que la Turquie était un Asie mineure. J'ai ça dans ma tête.
Un dernier mot, Jean-Claude Gaudin, pour parler de l'OM, dont vous êtes un grand supporter. On le sait, l'Olympique de Marseille est actuellement en bas de classement. Qu'est-ce qui peut redonner des couleurs à votre club ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, impliquer Zidane ?
Oh, écoutez, on a impliqué à peu près tout le monde, Zidane, Tapie et bien d'autres, sans succès. D'abord, l'Olympique de Marseille. Quand j'arrive à l'hôtel de ville de Marseille, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus d'entraîneur, il n'y a plus de manager, il n'y a plus que 350 millions de francs de dette à l'époque. et le tribunal décide qu'il faut faire une société d'économie mixte dont le maire sera le président. Je me suis donc trouvé pendant 2 ans président de l'Olympique de Marseille. À l'époque, l'Olympique de Marseille était en deuxième division. Et j'expliquais à mon premier adjoint, très fanatique du football, et qui aurait aimé que nous nous mêlions un peu de tout dans ce domaine, qu'au contraire, il ne fallait pas mélanger la politique et le football, et que notre devoir, quand nous aurions remis un peu d'ordre, était de nous séparer de l'Olympique de Marseille sur la pointe des pieds. C'est une chose que j'ai pu faire 2 ans après, en faisant appel à Robert Louis Dreyfus. Robert Louis Dreyfus, je ne le remercierai jamais assez au nom de la ville de Marseille. Des sommes d'argent considérables qu'à titre personnel, il a investi dans l'OM. 1,5 milliard de francs investis par Robert Louis Dreyfus dans l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut regretter, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Robert Louis Dreyfus? C'est qu'il a mis l'argent, mais qu'il n'a pas été le patron. Il a toujours laissé d'autres gouverner, il se contentait de mettre l'argent. Et ces gouvernements successifs n'ont pas donné de bons résultats. Aujourd'hui, il faut que l'OM se ressaisisse. Mais indépendamment de cela, l'OM est quelque chose de plus important pour le maire de Marseille. L'OM, ça n'est pas que la compétition sportive. L'OM, ça n'est pas que les buts marqués, même s'ils nous font plaisir. L'OM est un facteur d'intégration des populations. Et parce que c'est un facteur d'intégration des populations, ça participe au calme de la ville, à la sérénité de la ville, et quand il gagne encore plus. Voilà pourquoi je souhaite aussi qu'il gagne. Quant au traitement des joueurs, vous pourriez facilement changer le vôtre avec les leurs.
Merci Jean-Claude Gaudin, merci également à Bruno Jeudy du Figaro et à Henri Vernet du Parisien. Cette émission a été préparée par Delight Eby et réalisée par Samer Elage. Bonsoir.
C'était Pluriel, le club de la presse de Radio Orient. Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.